Femme novatrice.
Femme novatrice.
Femme novatrice avec Sophie Nanin.
Bienvenue à Femme novatrice pour écouter et partager avec nous les échos de leur challenge. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Cécile Héraudeau, directrice de Convivencia, la scène navigante musique du monde. Bonjour Cécile.
Bonjour Sophie, merci de me recevoir.
Avec grand plaisir. Je pense que nos auditeurs vous connaissez déjà peut-être et sûrement le festival Convivencia, car il bouge sur plusieurs départements. Il existe, alors si je ne me trompe pas, vous m'avez précisé le 34 éditions.
Alors, non, l'association, on a fêté le 15 février les 34 ans de l'association.
Ah, c'est l'association.
Et voilà, l'association qui est née avant le festival. Et le festival Convivencia, là, on prépare la 28e édition, cette année en 2024.
Alors attendez, chers auditeurs, 28e audition, mais quand même, j'enchaîne directement sur Cécile. 18 ans de fidélité, de créativité, de réactivité à gérer une équipe. Donc là, vous me laissez la porte ouverte, c'est à vous de parler de vous maintenant.
Ah mince. Et oui, effectivement, 18 ans là, depuis le 1er février, j'ai réalisé ça il n'y a pas longtemps. Et justement, ce jour-là, j'étais en intervention à l'université auprès d'étudiants là, sur un module de politique culturelle. Et je leur disais, 18 ans, j'en reviens pas, parce que quand je suis arrivée à Convivencia, jamais j'aurais imaginé rester autant de temps dans une même structure. Et donc, si je suis là encore aujourd'hui, c'est parce que mes missions, bien sûr, ont évolué. Et le projet, il est incroyable. Ce projet d'itinérance sur les canaux du Midi en lien direct avec les musiques du monde, c'est passionnant. Chaque année, on se renouvelle. Il y a une super équipe derrière. Et du coup, je ne me lasse pas et chaque année on fait évoluer. Donc, puis on travaille avec plein de personnes, c'est hyper hyper riche.
Donc là, cette année, c'est quelle date précisément ? Je sais que c'est fin juin.
On va démarrer le 29 juin, le samedi 29 juin à Montech, en Tarn-et-Garonne, et on termine le 23 juillet à Frontignan en Hérault. Donc voilà, pendant 3 semaines, 400 kilomètres. Au rythme contemplatif de 5 km/h. Donc c'est vrai que c'est assez atypique, hein, ce festival.
Oh oui, puis de nuit, c'est un éclairage et de folie. Ouais. Est-ce que vous pouvez préciser aux auditeurs au niveau des communes et des départements dans lesquels ils passent ? Parce que je veux absolument que, comme la radio présence est diffusée vraiment sur 12 départements, qu'ils puissent bien voir que
Rodez... On n'est pas juste sur deux communes. C'est vraiment un festival dans le sud de la France, en Occitanie. Et on se déplace en péniche, c'est pour ça qu'on
Chers auditeurs,
on s'amuse à dire que c'est le festival le plus lent du monde.
Et oui, on a oublié de préciser.
C'est quand même, on utilise une péniche, la péniche tourmente, qui est longue de 30 mètres et qu'on transforme en scène de concert. Et donc effectivement, on va démarrer donc cette année à Montech en Tarn-et-Garonne, ensuite on va aller à Grisolle, toujours en Tarn-et-Garonne, ensuite Toulouse, Ramonville, donc ça c'est, on est en Haute-Garonne, Toulouse, Ramonville, Castanet-Tolosan, Aiguevive, Gardouche, Renneville, hop, ensuite on va dans le département de l'Aude, Vilsaqueland, un tout petit village là, vraiment très mignon, ensuite Argens-Minervois, toujours dans l'Aude, La Redorte, Le Somail, c'est vraiment la carte postale du Canada du Midi.
C'est super parce que tout ce qui est loin, on va dire, du monde urbain peut être complètement concerné par le culturel.
Exactement.
Et en plus l'international, parce que franchement après on parlera de
des
programmation
musiques,
les artistes, mais c'est quand même bluffant. Mais je vous en prie, terminez là.
Et voilà, et donc le Somail, et ensuite on termine en Hérault à Frontignan, donc juste à côté de Montpellier. Donc c'est vrai que c'est un très beau parcours et comme vous le disiez, avec des décors, on s'arrête, on s'amarre aussi bien dans des villes vraiment urbaines ou dans des petits villages, dans des hameaux parfois. Donc à chaque fois, le cadre, le décor change, c'est génial.
Ah oui, c'est super. Et par rapport à aussi cet aspect terroir et art, il y a des expos aussi.
Exactement.
Sur le lien est fait. Donc il y a vraiment un triptyque culturel, à limite intergénérationnel, parce que c'est aussi des musiques du monde et de partout et qui peut vraiment capter et rassembler toutes les générations. Alors ça, c'est quand même assez génial sur l'originalité et que vous étiez même déjà avant-gardiste dans la culture, parce que là, c'est donc, vous avez dit, 28e édition. C'est un concept qui était quand même précurseur, c'est peut-être pas forcément ça. Oui, très créatif, imaginatif.
Exactement, mais c'est parti, le point de départ, ça a été un projet de territoire et l'idée de fédérer, de faire avec, de quand je dis fédérer, c'est aussi bien les communes, les collectivités que les acteurs locaux, les acteurs associatifs des territoires, les acteurs économiques. Et donc effectivement, on va pour que ce festival il ait du sens, on va associer la jeunesse, on travaille maintenant aussi avec les maisons de retraite, on travaille avec le tourisme, on associe des vigneronnes. En fait, l'idée c'est de vraiment de fédérer, de mettre en lumière les territoires traversés par le festival. Et ce que je voulais préciser aussi, c'est qu'en 28 éditions, quand même, on n'a jamais eu le même parcours. C'est pour ça que moi qui n'aime pas la routine, je peux vous dire que je suis gâtée à Convivencia.
Ça s'entend à votre voix et à votre dynamique, la routine. Mais alors justement, de pas le même parcours, comment c'est mis en place tout ça au niveau des axes, comment vous faites? Parce que là, les maisons de retraite, ça m'interpelle, et je pense aussi les auditeurs pour voir comment vous opérez. Mais au niveau du tracé, comment vous le mettez en place?
Alors, ça se voit pas forcément, mais c'est un travail d'une année et qui est fait avec toute une équipe. Hein. Je ne suis pas toute seule derrière ce beau projet. Eh bien, comment ça se passe? On sollicite les communes, communautés de communes. Bien sûr, la première condition, c'est d'avoir le canal, un espace où on puisse s'amarrer, accueillir du public dans des bonnes conditions, puisque la scène de concert est installée donc sur le pont de la péniche, et on invite les festivaliers et festivalières à se retrouver sur les verges dans un cadre vraiment très chouette. Donc, première condition, c'est qu'on puisse accueillir. Ensuite, on demande aussi aux communes et communautés de communes un cofinancement pour qu'on puisse organiser l'événement. Donc il faut qu'il y ait l'envie, un engagement quand même minimum financier. Et ensuite, avec eux, on va voir les forces vives qu'on peut associer à l'organisation de ce festival pour qu'il ait du sens. Et ensuite, c'est un travail d'une année. Si tous ces éléments sont réunis, après, on travaille ensemble et on organise plusieurs temps de travail, dont à minima deux réunions multipartenariales avec, ça peut être des élus, des chargés de mission, des responsables de maisons de retraite, services jeunesse, des vignerons. Et on met tout ce beau monde autour de la table, on travaille ensemble, on le fait par territoire. Donc voilà, c'est vraiment l'envie et les forces vives du territoire.
Femme novatrice, Sophie Nanin.
Cécile, par rapport à toute la présentation que vous avez faite par rapport au festival Convivencia, là, j'avoue qu'au niveau des maisons de retraite, ça m'interpelle. Là, vous avez bien expliqué sur le côté circuit et que c'était un travail d'une année. Mais au niveau équipe, alors, parce que vous êtes là depuis longtemps, vous avez combien de personnes avec vous? Et on va dire les saisonniers, je sais pas comment vous appelez cela, intermittents.
Alors, plus intermittents du spectacle. Et puis des partenaires prestataires associés.
Parce que pour un an, alors comment ça se passe au niveau équipe?
Alors, on est, donc effectivement, je ne suis pas toute seule, sinon ce ne serait pas possible. impossible d'organiser cet événement et tout ce qu'on fait aussi autour hein, à l'année. Donc on est quatre permanentes, quatre personnes à travailler à temps complet à l'année. Une équipe qui est renforcée avec des intermittents du spectacle sur des missions, par exemple, de régie, coordination du bénévolat, accueil des productions, tout ce qui est production, accueil des artistes. Mmh. Et sur les festivals, donc, on est une équipe de 18 professionnels. Mmh. Donc, ça va des métiers de la technique, communication, restauration. Et ben, c'est une équipe assez atypique aussi, puisqu'il y a un capitaine ou une capitaine selon les années et un matelot ou matelote. Mmh. Voilà, donc c'est une chouette équipe à taille humaine, mmh. Et une équipe qui est là aussi pour faire vivre ce projet.
Mais la péniche, justement, par rapport à son histoire, c'était un privé, ça appartenait à la Haute-Garonne, parce que bon, c'est sur le canal du Midi, et puis il peut y avoir aussi d'autres départements qui auraient pu être propriétaires. C'est
non, alors le point de départ, donc moi je ne suis pas à l'origine hein, quand même de ce projet de l'association. À l'origine, c'est donc Jean-Marie Freys, qui est le fondateur, ancien directeur, qui avait acheté à l'époque une péniche, mais bien personnel pour mmh. le transformer une partie en logement et l'autre partie en salle de concert. Mmh. Donc le projet de l'association a démarré autour de ce bateau, la péniche Chèvrefeuille, qui maintenant a été vendue et a une autre activité. Et une des particularités de Convivencia, c'est qu'on n'a pas de lieu. Et même là, aujourd'hui, la péniche qui accompagne le festival mmh. qui s'appelle la péniche Tourmente mmh. et qu'on associe depuis maintenant plus de 20 ans, on la loue. Et c'est une des particularités de Convivencia. Et on y tient de ne pas avoir... On n'a jamais eu de lieu. Et c'est une des forces aussi, c'est que ça nous permet de travailler cette itinérance et de construire à chaque fois tous les événements, nos actions avec les acteurs locaux. D'accord. Et d'utiliser aussi des lieux déjà, des lieux existants, donc des fois ça peut être des salles de concert, des lieux même parfois atypiques, mais une grande majorité de nos actions se font dans l'espace public et on y tient pour mettre en avant ce patrimoine qui est le canal du Midi, qui est incroyable et je le précise, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO depuis 1996, l'année où a été créé le festival Convivencia.
Ah non, mais c'est joli. Est-ce que justement, cette, comment vous dites, mince, indépendance, autonomie, est-ce que c'est ça aussi vous-même, cette autonomie que vous avez eue et que vous avez toujours, qui vous avait fait rester sur ces 18 années, cette évolution, cette créativité, où vous avez vraiment la main libre, on va dire ça, avec votre équipe pour justement surprendre. Parce que c'est quand même 28 éditions, vous, depuis 18 ans, ça veut dire que ça fait 18 ans, vous interpellez. Bah, nous tous, hein, public, par rapport à votre créativité, j'imagine.
Oui, bah, c'est le côté effectivement indépendant, créativité, renouvellement aussi, remise en question. C'est vraiment ces éléments qui sont moteurs dans mon quotidien à Convivencia. C'est vraiment ça qui me motive.
Et sur toute la présentation par rapport au projet, comment ça se passe au niveau mécénat? Alors, je ne vais pas parler de subvention pendant 3 heures, je vous rassure, mais au niveau mécénat, est-ce qu'il y a une écoute des entreprises? Est-ce qu'il y a une sollicitation? Parce qu'auprès de nos auditeurs, ils sont chez eux, certes. Maintenant, il y a aussi des décideurs qui nous écoutent.
Exactement.
Il peut y avoir un intérêt par rapport à la culture qui est quand même très soutenue et entendue, mais qui peut l'être encore plus par rapport à des mécènes privés.
Alors, c'est vrai que je tiens à préciser que c'est effectivement un projet qui est de plus en plus reconnu et quand même bien soutenu, même si ça pourrait l'être plus. On est essentiellement, essentiellement soutenu par des collectivités. Hein, on a un budget, on est soutenu quasiment à 80% de financement public. Et c'est vrai que le mécénat aujourd'hui, c'est partie, une petite partie de notre budget, ça pourrait l'être davantage. Mmh. Donc, si parmi les auditeurs, auditrices, il y en a qui veulent soutenir Convivencia, n'hésitez pas, hein, je vous invite à aller sur notre site internet. Il y a une
et réseaux
partie
sociaux.
Sur, voilà, et réseaux sociaux. Hein, on peut soutenir de différentes façons le projet Convivencia. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, on est plutôt soutenu par les collectivités.
Ah oui, du ça fait c'est que clair ce soit, que c'est, voilà, c'est vraiment reconnu par la, on va dire, la région, on va dire, et le département à ce niveau-là. Est-ce que là, vous pouvez donner un peu de détails sur le côté original aussi, le côté terroir et les expos qui se font ? Parce qu'il y a tout cet aspect aussi patrimonial, on va dire, de notre région. Il y a un lien. Est-ce que vous pouvez donner des détails ?
Oui, ben alors, juste préciser déjà pour l'esprit, l'ambiance, de dire que de venir sur ce festival, c'est une vraie expérience, hein, au-delà de, j'ai envie de dire, d'un festival un peu plus classique. Il y a la soirée, on va dire concert, 1, 2, 3 concerts, selon ce qu'on construit avec le territoire, ouverte à toutes et à tous, hein, c'est un festival sans billetterie. Et ensuite, en journée, on propose plusieurs différentes actions. Il peut y avoir des balades à pied, en bateau, découverte du patrimoine du canal avec un moment artistique sous forme, ça peut être de performance, de lecture. Donc ça, on le travaille à chaque fois avec les acteurs du tourisme. Et puis là, ça fait depuis 7 ans, on a un beau partenariat avec le musée Les Abattoirs de Toulouse, le FRAC Occitanie de Toulouse et celui de Montpellier, pour la découverte d'expositions d'œuvres d'art contemporain en lien avec le canal du Midi. Donc ça se traduit selon les années de différentes façons, sous forme de parcours, découverte d'installations d'œuvres d'art contemporain dans des lieux un peu atypiques. Ça peut être dans une halte nautique, par exemple à la Redorte, ou ça, parfois ça peut être en extérieur, le long du canal. Et donc ça permet aussi de croiser les publics. Il est vraiment super ce partenariat avec le musée Les Abattoirs de Toulouse. Pendant plusieurs années, il y a même eu une œuvre installée sur la péniche tourmente. Donc chaque année aussi, on le renouvelle, ce partenariat.
Et sur toutes ces actions là que vous menez, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une complémentarité. Vous rassemblez entre acteurs du culturel ici à Toulouse pour voir justement dans le cadre du festival Convivencia, pour qu'il y ait des accords nouveaux, pour qu'il puisse y avoir encore, comme je disais tout à l'heure, d'interpeller. Vous rassemblez entre vous pour voir comment justement
mieux défendre le secteur.
Le secteur, parce que je vois que vous faites aussi des actions festival en mouvement, pardon.
Oui.
Donc là, c'est encore autre chose. Mais ça veut dire que vous êtes quand même hyper actif, observateur. Pour faire des actions. Bon, attention, au niveau festival en mouvement, on va en parler après, c'est vraiment lié à l'environnement. Mais sur le lien avec les autres acteurs, vous êtes très fédérateur, je trouve.
Ça fait partie aussi de mes missions et plus largement même de Convivencia, dans le projet d'être engagé dans l'intérêt, j'ai envie de dire intérêt général, et pour défendre la filière. Et dans ce cadre-là, moi, depuis 2 ans, je suis présidente du réseau Zone Franche. C'est le réseau national des musiques du monde. Donc juste en 2 mots, c'est un réseau qui fédère, là aujourd'hui on est à 220 structures, donc ça peut être des diffuseurs, producteurs, labels, marchés, et tous ces acteurs se fédèrent autour d'enjeux professionnels et politiques pour défendre la promotion et la valorisation de la diversité culturelle et aussi la libre circulation internationale des artistes, qui aujourd'hui est assez compliquée. Donc dans ce cadre-là, je participe à des jurys de programmation pour défendre les artistes. Je suis par exemple au Prix des musiques d'ici, aux Inouïs du printemps de Bourges en Occitanie. je fais partie du comité de programmation du Babel Music XP. Je fais partie aussi du des victoires du jazz sélection musique album album musique du monde. Donc je suis dans plein de jurys qui me permet aussi de défendre les artistes de la région, plus largement les artistes des musiques du monde. Et aujourd'hui, on en a vraiment besoin parce que c'est des musiques qui sont pas assez visibles, pas assez médiatisées, pas assez visibles sur les scènes, pas assez reconnues. Et aujourd'hui, la circulation internationale est quand même assez compliquée, notamment pour l'obtention des visas.
Et au niveau des artistes, ça veut dire que c'est de pouvoir, dans leur pays, les faire venir ici, ou ils sont déjà ici et reconnus, c'est difficile de s'affirmer, de pouvoir entrer dans une programmation?
J'ai envie de dire, c'est les deux. Alors oui et non, j'ai envie de dire que je trouve qu'il y a un intérêt grandissant pour ces musiques, mais il y a un vrai manque de moyens pour accompagner à la circulation internationale. Ça a des coûts. Et également, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'obtention des visas est de plus en plus compliquée pour faire venir des artistes ici. Et du fait aussi que ces artistes soient pas assez médiatisé, ça va refroidir certains programmateurs, programmatrices de les programmer, parce que dans l'idée que ça va être compliqué de faire venir du public, ce qui n'est pas forcément vrai, parce que avec ces artistes, vraiment ces musiques, c'est des musiques qui racontent des histoires, qui sont d'essence patrimoniale et qui véhiculent plein de valeurs, qui mettent vraiment en lumière la richesse de la diversité de notre société mondialisée, vraiment de manière positive, avec toutes ces atouts, ces au niveau linguistique, au niveau social, et on a besoin aujourd'hui de défendre ce type de musique pour rassembler les populations.
Belle phrase, beaucoup d'humanisme, merci beaucoup. Mais là, sur un point aussi sur lequel je voudrais que vous puissiez présenter les éléments, c'est sur l'environnement.
Oui.
Parce que alors là, on est pile dans les sujets d'aujourd'hui, effet de serre. Donc là, est-ce que vous pouvez c'est absolument pas ça, pardon, présenter un peu plus, parce que vous influencez énormément, quoi. Vous avez un rôle d'acteur, on va dire, c'est la péniche, l'environnement, les actions par rapport à ça que vous menez.
Mais c'est vrai que le sujet des questions environnementales, nous c'est un sujet depuis le début, du fait que le festival Convivencia se déroule dans l'espace public, dans un cadre patrimonial, je veux dire même UNESCO. Donc on a toujours été sensible à ces questions de développement durable, et chaque année on essaie de s'améliorer. Depuis 2021, on a créé une charte Convivencia en transition qui permet de fédérer aussi l'ensemble de nos partenaires sur ces questions-là. Donc ça va de la mobilité, des équipes, des artistes, des publics, jusqu'au tri des déchets, au choix de l'alimentation. Donc on s'engage, nous, Convivencia, et on demande aussi à eux de s'engager. Et c'est une charte qu'on remet en question chaque année et qui est vraiment co-signée par nos partenaires. Dans l'équipe, il y a un référent développement durable. Et là, depuis, vous en parliez tout à l'heure, depuis 2023, on a été donc sélectionné pour rejoindre Festival en Mouvement. Donc c'est un collectif de 50 festivals au niveau national qui travaille sur les questions de mobilité des publics. C'est quand même le point noir pour les festivals au niveau écologique. On a toujours... Moi, la première, on a plus en tête les questions de tri des déchets, des gobelets consignés, mais il faut s'améliorer sur ces points-là. Mais vraiment le gros problème au niveau écologique pour les festivals, c'est la question des mobilités des publics. C'est vraiment...
Oui, parce que le public reste sur le quai, et ce sont les artistes qui sont
au niveau environnemental, de manière plus large pour les festivals, quand on fait venir des têtes d'affiches qui donnent envie à à des publics très éloignés de venir voir la tête d'affiche, c'est ça qui va être le plus problématique au niveau environnemental.
Voilà, on y va et on oublie le savoir-vivre, on va dire ça comme ça, le respect.
Mais donc nous, le fait déjà d'être sûr de l'itinérance, d'aller au plus proche des habitants et des habitantes en amenant... Un projet de territoire, d'amener la musique au plus proche des habitants, on va dire que en termes de développement durable, on fait déjà un gros pas d'aller au plus proche des habitants, mais on a encore à plein niveau, on doit encore s'améliorer et chaque année, on essaie d'aller vers du mieux.
Non, mais là, vous devriez vous rapprocher de champs d'action, vous regarderez sur Instagram, qui sont vraiment les actions de nettoyage de berges. Il peut y avoir une synergie à avoir là-dessus qui serait effectivement pertinente. Là, on arrive malheureusement à la fin de notre émission. Vous, de messages de fin que vous voudriez transmettre en lien avec le festival ou pas à nos auditeurs par rapport à votre venue. En tout cas, je suis ravie de vous avoir accueilli aujourd'hui. Mais du message de fin, vous pourriez transmettre ou je ne sais pas, qu'il puisse être entendu ou... Je sais pas.
J'ai envie de dire que tout est possible. Hein. Quand on a envie, plein de choses sont possibles. Moi, dans mon parcours, mon travail au quotidien, je remets vraiment en question à chaque fois le sens de mon travail, des actions, du projet. Pourquoi on le fait? Est-ce que ça fait sens? Mm-hmm. Et sinon, ça ne sert à rien. Enfin, il faut vraiment se remettre en question. Mais et puis d'inviter bien sûr les auditeurs, auditrices à aller à ce type de projet, de territoire. C'est important aussi d'être suivi et puis de faire des retours. C'est important, qu'ils soient positifs ou négatifs. C'est très important.
Écoutez, là, c'est une belle phrase de fin. Donc, chers auditeurs, vous savez que la culture est vraiment sur nos départements, le canal du Midi, qui est connu internationalement. Donc là, vous ne pouvez pas dire que vous ne connaissez pas le festival Convivencia. Vous avez tous les outils pour aller voir. Et surtout, ça passe dans vos départements. En tout cas, excellente semaine à tout le monde et à très prochainement.